Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les essais de Michel de Montaigne sont une œuvre majeure de la Renaissance française. Publiée pour la première fois en 1580, puis continuellement reprise et enrichie jusqu'à la mort de son auteur en 1592. Cette édition bouquin de 2019, établie sous la direction de Bernard Combault et précédée par Michel Onfray, modernise systématiquement orthographe, accentuation et ponctuation sans effacer la vigueur de la langue de Montaigne. Réparti en 3 livres et 107 chapitres de longueur très inégale, l'ouvrage ne propose ni système philosophique fermé, ni traité ordonné. Il invente au contraire une forme mobile. L'essai, ou une observation intime, peut conduire à examiner la coutume, la politique, la lecture, le corps, la guerre, la mort ou les rapports entre peuples. Montaigne prend son propre jugement pour objet afin de tester les opinions reçues. Son but central est moins de transmettre des certitudes que de former une pensée capable de reconnaître ses limites, de comparer les expériences et de vivre avec davantage de mesures. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le moi comme terrain concret de la connaissance. La singularité première des essais tient au choix de Montaigne de faire de sa propre personne la matière déclarée du livre. Ce geste ne se réduit pas à la confession ou au récit de souvenirs. Il observe ses habitudes, ses peurs, ses goûts, ses faiblesses corporelles, ses réactions aux événements et les variations de son humeur pour comprendre plus justement ce qui constitue un être humain. Le moi sert donc de laboratoire moral. Parce que son jugement change avec le temps, Montaigne ne cherche pas à produire une image fixe et exemplaire de lui-même. Il montre plutôt un sujet mouvant, dépendant des circonstances et souvent contradictoire. Cette attention à l'instabilité combat les portraits idéalisés que la morale, la politique ou la tradition imposent volontiers. Elle donne également au lecteur une méthode indirecte, partir de son expérience effective plutôt que répéter des principes abstraits. L'introspection montagnienne reste toutefois tournée vers le commun. Les particularités de sa vie permettent de poser des questions plus larges sur la peur, le deuil, l'ambition, l'attachement ou le rapport au corps. Ainsi, la connaissance de soi ne signifie pas repli narcissique, mais examen honnête des conditions ordinaires du jugement humain. Deuxièmement, le scepticisme comme discipline contre la certitude, les essais développent une défiance constante envers les affirmations trop assurées. Montaigne interroge la fiabilité des sens, les limites de la raison individuelle. La diversité des doctrines et la facilité avec laquelle les hommes prennent leurs usages pour des vérités universelles. Sa position ne consiste pas à renoncer à tout jugement. Elle exige plutôt que le jugement demeure conscient de sa fragilité. La question « que sais-je » résume cette vigilance, elle suspend la précipitation intellectuelle et oblige à distinguer ce qui est observé, cru, transmis ou simplement supposé. Cette attitude prend une portée particulière dans une époque marquée par les guerres de religion et par des conflits de convictions meurtriers. Face au dogmatisme, Montaigne valorise la modération, l'examen des raisons adverses et le refus de convertir l'incertitude en certitude. Son scepticisme a aussi une fonction pratique. Accepter que les situations soient complexes aide à éviter les décisions gouvernées par la colère, la vanité ou la peur. Le lecteur ne reçoit donc pas un ensemble de réponses définitives, mais une éducation de l'attention. Les essais apprennent à réviser une opinion, à supporter le doute et à préférer la lucidité provisoire aux certitudes flatteuses. Troisièmement, la diversité des coutumes et la critique de l'ethnocentrisme, Montaigne fait de la pluralité des coutumes un instrument de décentrement. En comparant les pratiques européennes avec celle de peuples décrits dans les récits de voyage, notamment dans le chapitre consacré aux cannibales. Il met en évidence le caractère relatif de nombreuses normes sociales. Ce qui paraît naturel à une société peut sembler étrange ou condamnable à une autre. Cette constatation ne signifie pas que toutes les pratiques se valent sans examen. Elle vise d'abord l'arrogance de ceux qui nomment barbares ce qui ne correspond pas à leurs propres habitudes. Montaigne retourne ainsi le regard critique vers l'Europe de son temps, capable de cruauté politique et religieuse, tout en se croyant supérieur. L'altérité devient une épreuve pour le jugement, elle révèle que les préjugés se présentent souvent sous les apparences de l'évidence. Cette démarche explique l'actualité durable des essais dans la réflexion sur la tolérance et les rapports entre cultures. Montaigne ne construit pas une théorie moderne des droits humains et ses sources sur les mondes lointains restent celles de son époque. Mais il accomplit un déplacement décisif avant de condamner autrui, il faut interroger les critères de sa propre condamnation. Cette leçon lie curiosité, prudence morale et critique des hiérarchies culturelles. Quatrièmement, éduquer le jugement plutôt que remplir la mémoire. Dans ses pages sur l'éducation, Montaigne conteste une instruction fondée principalement sur l'accumulation de savoir et la répétition mécanique des autorités. Il ne méprise pas les livres ni les auteurs anciens auxquels les essais empruntent abondamment. Il refuse plutôt le savoir qui reste extérieur à celui qui le récite. une connaissance valable doit être digérée, confrontée à l'expérience et transformée en capacité de juger. Cette conception modifie le rôle du maître. Il ne doit pas seulement parler et exiger la restitution d'une leçon, mais inviter l'élève à examiner, comparer et formuler son propre avis. L'exercice du corps, l'observation du monde et la conversation ont également leur place dans cette formation complète. Montaigne cherche une intelligence souple, capable de se conduire dans des circonstances variables, plutôt qu'une érudition d'apparat. Sa critique du pédantisme vise donc un défaut éthique, autant qu'intellectuel exhiber des références sans avoir appris à penser par soi-même. Pour le lecteur contemporain, cette réflexion conserve une force concrète. Elle rappelle que l'information ne devient pas automatiquement compréhension et que la culture gagne en valeur lorsqu'elle améliore le discernement. Chez Montaigne, apprendre consiste moins à posséder des contenus qu'à exercer un jugement vivant, corrigible et responsable. En dernier lieu, la mort. Le corps est l'art de vivre sans héroïsme factice. Les essais abordent la mort non comme un sujet isolé, mais comme une donnée qui éclaire le rapport au temps, au corps et aux choix quotidiens. Montaigne reprend des motifs antiques, notamment stoïciens et épicuriens, pour réfléchir à la peur de mourir et à la nécessité de ne pas laisser cette peur gouverner toute l'existence. Pourtant, sa pensée ne s'enferme pas dans une morale de la rigidité. Au fil des révisions du livre, il accorde une attention croissante aux besoins ordinaires, à la maladie, au vieillissement, au plaisir, à l'amitié et aux limites physiques. Vivre sagement ne demande pas de mépriser le corps, mais de le connaître et de composer avec lui. Cette orientation explique l'importance de la mesure chez Montaigne. Il se défie des exploits moraux, des austérités ostentatoires et des postures héroïques qui oublient la condition réelle des individus. La bonne vie n'est pas une conquête glorieuse, elle suppose une relation plus loyale à ce que chacun peut effectivement supporter et désirer. Cette sagesse demeure exigeante, car elle requiert lucidité et ajustement. Elle se distingue aussi du simple confort, jouir de son être implique de reconnaître la finitude, de limiter les passions destructrices et de préserver une liberté de jugement au sein même des contraintes de la vie. En conclusion, les essais conviendront aux lecteurs de philosophie, de littérature, d'histoire des idées et de sciences humaines, mais ils ne demandent pas une formation spécialisée. Cette édition modernisée facilite l'accès à une prose du XVIe siècle qui demeure parfois dense par ses références et ses détours. Elle se prête particulièrement à une lecture dite continue un chapitre, une question ou une remarque peut être méditée sans que le lecteur doive suivre une démonstration linéaire. Les bénéfices intellectuels du livre résident moins dans l'acquisition de doctrines que dans l'apprentissage d'une pratique du jugement. Montaigne apprend à repérer les préjugés, à ne pas confondre coutume et nature, à mettre les certitudes à l'épreuve et à considérer les limites de son propre point de vue. Il offre aussi des ressources concrètes pour penser l'éducation, la tolérance, le vieillissement, le rapport au livre et la conduite de soi. Comparé aux traités moraux ou philosophiques qui organisent leurs thèses de manière systématique, les essais se distinguent par leur liberté de parcours et par leur voie personnelle. Les citations antiques, les anecdotes, les réflexions politiques et les notations intimes y forment une pensée en mouvement plutôt qu'un édifice doctrinal. Cette instabilité apparente et leur force, le lecteur assiste non à la proclamation d'une vérité achevée, mais au travail d'un esprit qui vérifie, rectifie et nuance. C'est pourquoi le livre reste une référence singulière pour qui cherche une philosophie attentive à l'expérience vécue. Si vous souhaitez soutenir Michel de Montaigne, vous pouvez acheter le livre via Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.